Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes très chers frères, c'est aujourd'hui la fête de Saint Jacques apôtre, mais le sermon portera sur le texte du dimanche, du 9e dimanche après la Pentecôte, qui est en mémoire. En ces temps-là, Jésus étant arrivé aux abords de Jérusalem, voyant la ville, pleura sur elle en disant, « Assidûment en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. » Mes très chers frères, nous ne sommes pas encore parvenus à la moitié de l'année, le temps après la Pentecôte, que déjà nous voyons le Fils de Dieu répandre des larmes sur Jérusalem. Il y a une raison particulière à cela, que nous n'aborderons pas aujourd'hui, et c'est surtout aujourd'hui l'occasion d'être attentif, mes très chers frères, d'être attentif puisque l'apôtre nous appelle à la vigilance, puisqu'il dit « Ainsi donc celui qui croit être ferme, prenne garde de tomber ». Et il dit aussi que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Nous avons plusieurs choses à voir, mes très chers frères, car c'est aujourd'hui le jour du salut, et il nous faut nous concentrer sur ce que l'Église a à nous enseigner en ce 9e dimanche après la Pentecôte. Notre premier point, nous livrerons à quelques considérations sur les larmes du Fils de Dieu. Nous verrons aussi en quoi consiste la malice du cœur humain, et nous verrons comment bénéficier des larmes du Christ, l'efficace des larmes du Christ. Dans un deuxième point, un peu plus pratique, nous verrons la nécessité d'acquérir une connaissance salutaire. Nous verrons de quoi il s'agit. Nous verrons qu'un chrétien ignorant, c'est un chrétien qui meurt. Et nous parlerons aussi des vertus de la méditation de la parole de Dieu. Et ensuite, nous terminerons dans un troisième point, plus bref, par quelques considérations sur la fermeté et sur la chute. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. En ce temps-là, Jésus qui était arrivé aux abords de Jérusalem, c'est le dimanche des rameaux, mes très chers frères. Dans quelques instants, notre Seigneur entrera triomphant à Jérusalem, et pour l'instant, il pleure, il verse des larmes sur Jérusalem, et nous savons que Jérusalem, ayant rejeté le Messie, sera détruite moins d'une génération plus tard, détruite de fond en comble, et restera de très nombreux siècles, et même des millénaires, ruinée, détruite, comme nous le savons, jusqu'à nos jours, sous un certain rapport. Prenons garde, mes très chers frères. Notre Seigneur, les larmes de notre Seigneur ne sont pas les larmes d'un homme, d'une créature impuissante, et faible. Les larmes que notre Seigneur répand sur Jérusalem sont les larmes d'un Dieu compatissant. Et ça n'a rien à voir avec les larmes d'un homme faible et impuissant. Les larmes d'un Dieu compatissant sont source de vie, source de vivification. Et si nous disons que ces larmes n'ont pas porté leurs fruits pour Jérusalem, puisque Jérusalem a été détruite, nous savons aussi que Jérusalem sera, dans ce qu'elle représente, sera rappelée et bénéficiera enfin des grâces bientôt, des grâces que lui ont obtenues ces larmes de notre Sauveur. Les auteurs nous disent que notre Seigneur pleure sur Jérusalem, mais Jérusalem représente ici l'âme du chrétien. Il pleure sur l'âme du chrétien, et ces pleurs, encore une fois, mes très chers frères, ne sont pas des pleurs d'impuissance. Si notre Seigneur nous regardait vivre à notre guise et pleurait d'impuissance, dans un moment de lucidité, le chrétien pécheur pourrait être terrorisé comme, puisque tout ceci n'existe pas, mais comme il ne le serait jamais. C'est-à-dire que si le chrétien, voyant tout ce que Dieu a fait pour lui, et rejetant ce que Dieu a fait pour lui, pour vivre à sa guise, voyait Dieu être dépité et pleurer sur lui-même, finalement, sur Dieu et sur son échec, dans un moment de lucidité, on se dirait, mais de quel Dieu s'agit-il, puisque c'est un Dieu qui a tout fait pour me sauver et qui est incapable de me sauver efficacement. Donc voyez, mes très chers frères, il y a quelque chose de mystérieux dans les larmes de notre Seigneur. Ce sont des larmes versées par le Fils éternel de Dieu, nous disent les auteurs, et pour le prendre dans le contexte des chrétiens, sur une âme qui se perd par sa propre malice. Ce sont des armes, des larmes, nous disent les auteurs, des larmes mystérieuses. Ce sont des larmes très mystérieuses, puisque l'homme fait pour Dieu est toujours sans excuse de ne pas vivre pour Dieu. Donc, si le Christ pleure sur l'homme, sur le chrétien, et on pourrait même dire sur l'homme en général, c'est que l'homme doit vivre pour Dieu. La chute ne dispense pas, comme nous le savons, la chute n'a pas jamais dispensé l'homme de l'obéissance due à Dieu. La nature humaine rend cette obéissance virtuellement possible, puisque en chutant, l'homme a perdu beaucoup de choses, il a perdu tous les dons surajoutés, il a perdu son intégrité, il a perdu sa rectitude originelle, il a perdu même un certain nombre de fonctionnements normaux de la nature, il est devenu faible, impuissant, méchant, mais il n'a pas perdu la nature humaine, il n'a pas perdu l'image de Dieu. De telle sorte que l'homme, quelque déchu qu'il puisse être, eh bien, ne peut toujours virtuellement obéir à Dieu parce qu'il est fait pour obéir à Dieu. Si l'homme était devenu quelque chose d'autre qu'une créature, dirions-nous, par impossible, bien entendu, puisque même les démons, dans le fond, à leur manière, obéissent à Dieu. Mais si l'homme avait perdu sa nature humaine, évidemment, d'une certaine manière, il serait devenu autre chose et on en serait resté là. Mais l'homme est resté humain. L'homme est resté fait à l'image de Dieu. Donc lorsque le Christ pleure sur lui mystérieusement, c'est en quelque sorte, et sous un certain rapport, et il y aurait bien des choses à dire que nous n'aurons pas le temps de dire aujourd'hui, mais c'est sur lui-même que le Christ pleure. Il pleure sur son image qui lui est moins aliénée qu'elle ne s'aliène elle-même de ce qu'elle est elle-même. C'est-à-dire que c'est moins nous qui privons le Christ de quelque chose que nous qui nous privons de quelque chose alors que nous y avons droit. Et je le dis sans témérité, nous y avons droit, puisque nous sommes faits à l'image de Dieu, et a fortiori, évidemment, nous sommes recréés à l'image de Dieu par le baptême. Mais même un être humain non baptisé est concerné par ce que nous disons, même s'il l'est relativement moins qu'un chrétien, mais il l'est parce qu'il est fait à l'image de Dieu, et c'est déjà toute la différence entre une créature humaine et le reste de la création, et même les anges. Donc la raison d'être même de l'homme rend cette obéissance nécessaire. La tendance même, dirons-nous avec notre Père Saint-Augustin, la tendance même de la concupiscence est un témoignage que l'homme est fait pour un bien qu'il estime supérieur, puisque lorsque nous suivons la concupiscence, nous nous précipitons dans une quête de quelque chose, et cette chose souvent nous dépasse. Nous désirons quelque chose pour nous, nous sommes ambitieux, ça peut se manifester à toutes sortes de niveaux. Nous sommes ambitieux, donc nous poursuivons la gloire. Nous sommes gourmands, nous poursuivons le bon goût. Nous sommes, que sais-je, même on pourrait dire nous sommes paresseux, nous poursuivons la paresse, et nous sommes adroits pour éviter tout ce qui peut nous obliger à travailler. Donc même la concupiscence nous témoigne du fait que nous sommes faits pour Dieu. La concupiscence témoigne que nous sommes faits pour Dieu, et le fait que nous soyons dans une sorte de frénésie à la recherche même de notre volonté propre montre que en réalité nous sommes faits pour accomplir la volonté de Dieu, puisque tout ceci est un leurre. Celui qui suit sa concupiscence, qui suit sa volonté propre, n'arrivera jamais à rien, Le mouvement est bon, le mouvement, si l'on peut dire, est légitime. C'est le mouvement qui nous fait prendre pour un bien supérieur ce qui est un bien inférieur. Mais en moins, nous sommes dans cette illusion, et cette illusion est encore un témoignage au fait que nous sommes faits pour Dieu. Donc tout ceci, mes très chers frères, nous rend dignes de pitié. Lorsque Dieu nous voit, eh bien, il pleure sur nous. Lorsque plus précisément Dieu voit le pécheur, il pleure sur lui parce que le pécheur est digne de pitié. Certes, le pécheur est digne du courroux divin, mais le courroux divin ne vient que longtemps après la pitié. Et c'est une pitié efficace, de telle sorte que nous devons comprendre que lorsque nous contemplons, ou bien en nous-mêmes, ou bien dans notre prochain, la malice, les manifestations de la malice, et qu'est-ce que la malice, c'est sinon s'aimer soi-même jusqu'au mépris de Dieu, inclusivement, eh bien, lorsque nous contemplons la malice dans un être humain, eh bien, spécialement dans nos frères ou dans nos prochains, avant de nous révolter, mes très chers frères, contre cette malice, avant de critiquer le méchant ou même de le condamner, ce que nous devons faire sous un certain rapport, selon l'objectivité, souvenons-nous qu'il y a ici quelque chose qui est digne de pitié. Nous devons, nous disent les auteurs qui commentent ce passage, apprendre à pleurer sur le pécheur avant que de condamner ce pécheur. Alors, encore une fois, nous ne parlons pas comme peuvent s'exprimer les néo-catholiques qui disent qu'il ne faut finalement pas condamner le pécheur parce que le pécheur et le péché sont mêlés et que d'une certaine manière il faut aller plus loin. Non, le péché dans le pécheur est condamnable, il est haïssable et c'est pour cela que sous un certain rapport, nous ne devons rien avoir à faire avec lui. Mais sous un autre rapport, et l'un n'exclut pas l'autre, bien au contraire, la charité, le fait de se couper du pécheur, plutôt et de son péché lorsqu'il est vraiment très malicieux, c'est une charité que nous devons à nous-mêmes. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par le pécheur. Mais le fait d'avoir pitié du pécheur et de lui témoigner à notre niveau la charité est une manifestation de la charité que nous devons à ce pécheur, en tant qu'homme, en tant que racheté par le sang précieux du Christ. Donc, vous voyez, mes très chers frères, le pécheur, pour parler comme Pascal, le pécheur, avant d'être un pécheur, est surtout un homme déchu. Et c'est à ce titre-là que le Christ pleure sur le pécheur. Ce sont des larmes mystérieuses, ce sont des larmes de l'objectivité même de Dieu, ce sont des larmes de Dieu qui regarde sa créature. Donc, vous voyez, mes très chers frères, nous sommes très loin d'un Dieu qui serait impuissant et qui regarderait en quelque sorte son œuvre se casser la figure, si vous me permettez l'expression, sans pouvoir rien faire. Ça, c'est le Dieu des en tout cas, c'est pas le Dieu des catholiques. Le Dieu des catholiques voit ce que nous sommes, voit à qui nous appartenons, c'est-à-dire à lui, voit ce pourquoi nous sommes faits, et il répand des larmes de compassion. Ces larmes de compassion ont trait à notre malice. Plus il nous voit plein de malice, c'est-à-dire plein d'amour de nous-mêmes jusqu'au mépris de Dieu, plus il a de pitié envers nous. Et il dit, ah, si du moins en ce jour qui t'est donné, inac dietua. C'est une expression que nous devons bien comprendre, mes très chers frères. Inac dietua, ça signifie littéralement dans ce jour qui est à toi, dans ton jour, dans ce jour à toi, dans ce jour-là qui est à toi. Inac die, dans ce jour, toi, dans ce jour-là qui est à toi, dans ton jour donc. Qu'est-ce que c'est le jour? Le jour du pécheur, nous disent les auteurs moralistes, c'est celui où notre Seigneur Jésus-Christ verse des larmes sur lui. Nul ne sait quel est ce jour. Nul ne sait non plus quelle est la durée de ce jour. C'est le secret de Dieu, personne ne peut le savoir. Et même, il semble, à moins que je ne me trompe, mais il semble qu'aucun saint n'a jamais eu de révélation particulière sur la nature et la durée de ce jour du pécheur. Certains saints ont eu la certitude, par une révélation particulière, comme l'autorise le magistère, de leur propre élection, de leur propre persévérance finale, mais c'est très rare. Personne ne sait quelle est la longueur du jour du pécheur. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, est encourageant dans le sens où nous ne pouvons pas être découragés puisque nous ne savons pas. Mais c'est le jour du pécheur, c'est-à-dire c'est le jour même qui appartient en propre à la dignité de celui qui est actuellement un pécheur et qui est potentiellement, et en tout cas dans sa raison même, qui appartient à Dieu. Il est digne de pitié, et cette pitié n'est pas une pitié stérile puisqu'elle se manifeste par le jour. Le jour du pécheur, c'est celui où Jésus-Christ verse des larmes sur lui, avons-nous dit. Ce sont des larmes saintes, nous dit un auteur, des larmes saintes et sanctifiantes. Ce sont des larmes de compassion et de charité pour le pécheur. Ce sont des larmes instructives et consolantes pour les pénitents. Lorsque nous sommes pécheurs et que nous voyons le Christ avoir compassion de nous, nous nous convertissons et nous devenons pénitents. Et lorsque nous sommes pénitents, nous continuons à apprendre des larmes de ce Sauveur. Si lorsque nous devenons pénitents, les larmes de ce Sauveur n'avaient été que les larmes d'un Dieu impuissant pleurant sur nous, il faudrait que ces larmes fassent place à des cris de joie. Tout d'un coup, nous sommes pénitents, nous revenons vers le Christ par notre volonté propre, et Dieu bat des mains, il est content, il est heureux. Non, le Christ, sous un certain rapport, continue à pleurer sur nous. Il continue à pleurer sur nous pour nous apprendre par son exemple. Le Christ est notre modèle. Il continue à pleurer sur nous, de telle sorte que nous qui déplorons désormais nos péchés, nous apprenions à pleurer sur nos propres péchés, nous apprenions à déplorer le mauvais usage que nous avons fait de notre propre nature, et que nous apprenions aussi, et ça c'est dans la charité fraternelle, à pleurer sur le péché des autres, et comme nous le verrons, à pleurer sur ceux qui ne pleurent pas leurs propres péchés. Ce n'est pas, mes très chers frères, dans le cadre de ce que nous disons ici, ce n'est pas le moment de raisonner sur les desseins éternels de Dieu, mais de contempler, mais ou plutôt, mais de tirer profit de la compassion d'un Dieu tout-puissant. Que signifie la compassion d'un Dieu tout-puissant? Eh bien, c'est la compassion qui peut, même si elle, son effet est différé, mais c'est une compassion qui peut arriver aux fins qu'elle s'est proposée. Comment faire? Comment faire, mes très chers frères? C'est la première et la seule question qui nous intéresse. Comment faire pour tirer profit de la compassion de Dieu pour nous? Comment faire pour se mettre à l'école des larmes de notre Seigneur Jésus-Christ et devenir le sujet et l'objet de sa compassion? Nous passons à notre deuxième point. Eh bien, mes très chers frères, cette question peut avoir une réponse puisque c'est une question qui est légitimement formulée. Comment faire pour bénéficier, pour tirer profit de la compassion d'un Dieu tout-puissant? Dans l'Évangile, notre Seigneur dit, si du moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ce qui peut te procurer la paix. Quia si conoscisses, si seulement tu connaissais. Comment connaître donc ce qui peut nous procurer la paix et en amont de cette question, qu'est-ce qui peut nous procurer notre paix? Alors, autant dire, mes très chers frères, que ce n'est pas une réponse qui peut être dite en un mot. Parce que c'est une réponse qui est en même temps un programme de vie. Si notre Seigneur pouvait nous guérir de notre malice, ou si notre Seigneur voulait ou pouvait, disons, nous guérir de notre malice comme les médecins, les mauvais médecins guérissent les symptômes, eh bien, il le pourrait, mais il ne serait pas le Dieu bon, il ne serait pas le Dieu compatissant. Si celui qui, voyant son fils faire un mauvais pas, un mauvais geste, etc., et se blesser, arriverait par un médicament à lui ôter la douleur, mais sans lui dire qu'il s'est blessé en faisant ce mauvais pas, ce mauvais geste, en utilisant mal cet outil, que sais-je, il ne serait pas un bon père. Lorsque notre Seigneur dit, si du moins tu connaissais ce qui peut te procurer ta paix, notre Seigneur ne nous propose pas de savoir quelque chose afin que nous puissions, par exemple, échapper à la colère de Dieu et continuer à vivre à notre guise, etc. Il nous donne une connaissance qui est une connaissance qui a pour but de faire augmenter en nous la charité. Comme vous le savez, on n'aime que ce que l'on connaît. C'est une grande formule de notre Saint-Père. On n'aime que ce qu'on connaît. C'est même vrai, d'une certaine manière, dans le monde, même dans le monde naturel. On ne peut pas vraiment aimer quelqu'un si on ne connaît pas cette personne. On peut s'imaginer l'aimer, on peut aimer l'idée qu'on a de cette personne, mais ça, comme ça arrive souvent, quand on rencontre cette personne qu'on aimait beaucoup et qu'on la voit telle qu'elle est, ben on ne l'aime plus du tout. Donc, on ne peut aimer que ce qu'on connaît. L'amour ne peut être solide que lorsque la connaissance est solide. Si nous aimons vraiment quelqu'un, c'est d'une certaine manière que, du point de vue humain, c'est que nous connaissons cette personne, que nous connaissons ses qualités, que nous connaissons aussi ses défauts, et que, la connaissant dans sa globalité, notre amour pour elle se fortifie et va plus loin que les désagréments, que les déceptions superficielles, mais peut s'approfondir. Il n'y a pas de défaut en Dieu, mais ce Dieu, nous devons le connaître. Comment le connaître, mes très chers frères? Est-ce en essayant d'imaginer, en essayant de lire chez les philosophes la définition de Dieu? Bien sûr que non. Est-ce même en lisant les théologiens? Eh bien, je vous dirais, au risque de vous étonner, ce n'est pas en lisant les théologiens que l'on apprend à connaître Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a lu tout le traité sur Dieu de la première partie de la Somme théologique de saint Thomas qu'on va être plus averti. Sous un certain rapport, ce que je vais dire est relativement vrai, relativement faux pour saint Thomas, puisque, comme vous allez le comprendre, il y a le fondement de l'amour de Dieu dans un tel texte. Mais dans un autre texte, d'autres textes plus récents, plus contemporains, si l'on peut dire, qui parleraient de Dieu d'une façon philosophique et abstraite, ne nous permettraient pas de connaître ce Dieu. Pourquoi? Eh bien parce que c'est saint Paul qui va nous le dire. Il est dit, Or toutes ces choses leur sont arrivées en figure, et elles ont été écrites pour nous instruire, afin que nous trouvions, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Elles ont été écrites pour nous instruire. Vous allez dire, quel est le rapport avec la connaissance de Dieu? On ne peut connaître Dieu tel qu'il se connaît lui-même. Si nous connaissions Dieu tel qu'il se connaît, eh bien, ou bien nous serions le Père engendrant le Fils, ou bien nous serions le Fils engendré par le Père et revenant de toute éternité vers le Père, ou bien nous serions le Saint-Esprit procédant du Père et du Fils. Donc nous ne pouvons pas connaître Dieu tel qu'il est en lui-même. Nous ne pouvons connaître Dieu, mes très chers frères, que par ses manifestations. Nous ne pouvons savoir que Dieu est bon Parce que Dieu s'est montré bon dans le temps. Nous ne pouvons savoir que Dieu est puissant, etc., que parce que Dieu s'est montré puissant dans le temps, etc., etc. Et ainsi, connaissant Dieu par ses œuvres, nous remontons à une certaine connaissance de Dieu tel qu'il est en lui-même, et nous pouvons, sous un certain rapport, qui n'est peut-être pas forcément le plus fondamental, nous pouvons avoir une certaine idée rationnelle de ce qu'est Dieu. C'est une chose importante. Bien entendu, je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas important. Mais je dis que pour aimer Dieu, il ne faut pas l'aimer d'une façon qui repose uniquement sur un processus d'abstraction fait par notre intelligence. Il nous faut l'aimer dans ses œuvres, dans ses manifestations. Et nous ne pouvons pas l'aimer si nous ne le craignons pas. Parce que aimer quelqu'un que l'on n'a pas à craindre, eh bien, c'est d'une certaine manière être conduit à le mépriser. Je dirais même pas qu'on n'a pas à le craindre parce que cette personne est dure ou très puissante, mais par exemple, une personne qui pourrait, par exemple, que Dieu nous garde évidemment, mais un mari qui voudrait aimer sa femme et qui n'inclurait pas la possibilité que sa femme le quitte, alors je sais qu'il ne faut pas, évidemment ce n'est pas une bonne chose, mais dans l'absolu, il peut y avoir une séparation pour cause d'incompatibilité. Donc, un mari qui aimerait sa femme, mais qui ne craindrait pas que, à force de maladresse, à force de méchanceté, à force de négligence, finalement, elle se détourne de lui, ne pourrait pas vraiment l'aimer comme il faut. Eh bien, mutatis mutandis, un Dieu que nous n'aurions pas à craindre, nous ne pourrions pas non plus l'aimer comme il le faut. Nous ne pouvons connaître le Dieu que nous devons aimer, nous cherchons à bénéficier des larmes de compassion du Fils éternel de Dieu. Nous ne pouvons connaître ce Dieu de telle sorte à l'aimer que dans la mesure où nous commençons à le connaître, de telle sorte à le craindre. Et c'est pour cela que saint Paul nous dit, je le répète, or toutes ces choses leur sont arrivées en figure et elles ont été écrites pour nous instruire, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Nous devons comprendre que toutes ces choses dont il est question ici, et il vient de les mentionner, ce sont un certain nombre d'exemples tirés de nos pères dans le désert. Il se trouve que toutes ces choses, si les chrétiens les ignorent, il est incapable d'être instruit et d'être averti. Vous voyez, mes très chers frères, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Quand on apprend la vertu aux gens, quand on apprend les vertus aux gens, par exemple en faisant des conférences à longueur d'année sur les vertus selon Aristote, etc., tout ceci est très bien, mais quand on apprend aux gens finalement à être vertueux uniquement par la philosophie, eh bien le résultat c'est qu'on en fait des démons. On en fait des démons. Alors vous voyez, est-ce qu'Aristote faisait... Aristote est mort, c'était un païen. Je parle pour un chrétien, ou ce qui est supposé l'être, quelqu'un qui est supposé l'être. Quand on apprend, on fait des démonstrations pour pousser les gens à être vertueux, uniquement fondées sur les catégories de la philosophie naturelle, pour ne pas dire païenne, la philosophie païenne, le mieux que l'on puisse faire, c'est faire des gens des démons d'orgueil, des monstres d'orgueil. Mes très chers frères, cette façon de rendre en quelque sorte la vertu intéressante, est une façon charnelle de procéder. C'est une façon qui finalement flatte l'homme. Soyez vertueux parce que l'homme honnête est vertueux et on ne peut pas être un honnête homme, on ne peut pas être un homme efficace, on ne peut pas être un bon citoyen de la bonne République que j'entends, on ne peut pas être un... etc. sans être vertueux. Et Aristote dit ceci et cela. Alors c'est très bien ce qu'il dit et je ne dis pas que ça ne soit pas du tout utilisable par le christianisme. Loin de là, d'ailleurs, ça serait une proposition condamnée. Mais il se trouve que... Vous voyez, quand on ne fait que cela, finalement, on forge des démons, parce que l'homme qui s'imagine pouvoir être vertueux sans le moindre secours de la grâce du Christ est un démon. Il n'est pas littéralement un démon, mais il a quelque chose de démoniaque en lui, et c'est son orgueil, mes très chers frères. C'est son pélagianisme, c'est cet orgueil qui consiste à croire que l'on peut faire quoi que ce soit sans le Christ, et à croire que l'homme qui pratique les vertus selon la nature est en quelque façon que ce soit agréable à Dieu, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voyez, mes très chers frères, je referme la parenthèse. Il faut être vertueux, bien entendu, et il faut apprendre la vertu des maîtres qui nous l'enseignent, mais nous ne pouvons apprendre la vertu que dans la mesure où nous nous tournons vers ce qui a été écrit. Et quand saint Paul dit ces choses ont été écrites, Eh bien, il dit, elles ont été écrites dans la parole de Dieu. On apprend la religion que dans l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, telle que l'Église, bien entendu, nous en donne le sens. Loin de moi de dire que l'Écriture sainte seule suffit, ce n'est absolument pas ça, ça serait une folie. D'ailleurs, malheureusement, l'expérience a déjà été faite et on voit qu'elle est peu concluante sous bien des rapports. Mais en réalité, le chrétien, quand je dis le chrétien, je ne parle pas de l'homme qui se prend pour un chrétien, je ne parle pas du nusiste, je ne parle pas de celui qui a fait le constat de la vacance, qui s'est déclaré chrétien et qui, finalement, moderniste, entre guillemets, qu'il est, parce qu'il a reçu tous les sacrements des modernistes, a fait une confession générale et chez quelques prêtres non nunacum, et tout d'un coup se prend pour. Je ne parle pas de cet homme-là est dans l'illusion, cet homme-là n'est pas un chrétien, cet homme-là, c'est jamais qu'un néo-catholique qui s'ignore. Non, quand je dis le chrétien, je parle de celui qui est dans l'Église, c'est-à-dire, pour prendre simplement la définition du catéchisme, c'est celui qui, ayant été baptisé par les ministres légitimes, ou qui ayant été réconcilié par les ministres légitimes et introduit dans l'Église, vit selon les règles de son état, sous la direction des pasteurs légitimes. C'est tout. Si on n'est pas dans cette catégorie-là, on n'est pas chrétien. Vous voyez, si l'on est un prêtre et qu'on n'a pas d'évêque, on n'est pas vraiment chrétien. Si l'on est un laïc et qu'on n'est pas soumis à son prêtre qui est soumis à son évêque, on n'est pas vraiment chrétien, on est quelque chose d'autre. Ça se dit chrétien, évidemment, mais ça ne l'est pas réellement, selon la définition du catéchisme en tout cas, ou alors les mots n'ont plus de sens. Donc on apprend la religion chrétienne, mes très chers frères, que dans l'Écriture sainte, dans l'Église, telle que l'Église nous en donne le sens, et telle que nous sommes capables de la comprendre et d'en profiter, parce que nous sommes dans l'ordre. Voilà ce qu'on oublie, voilà ce que les protestants oublient lorsqu'ils disent « l'Écriture sainte est très importante ». Mais qui l'a jamais nié? D'ailleurs, s'il le dit, c'est parce que nous le disions avant eux. Maintenant, il se trouve qu'elle est très importante dans le contexte qui est le sien. Si, pour prendre encore une fois un exemple tout à fait profane, mais parlant, si on dit l'essence est très importante, et puis vous en renversez sur la voiture, et puis vous l'allumez, et vous-même vous mettez le contact, vous allez faire quelque chose, et cette essence va avoir un impact tout à fait négatif sur votre voiture, puisqu'elle va la brûler. Tandis que si vous mettez l'essence là où elle doit être, et que quand elle est là où elle doit être, et nulle part ailleurs, alors elle devient utile parce qu'elle est dans l'ordre. Elle est dans l'ordre des choses. Bon, c'est un exemple qui en vaut un autre, mais c'est pour donner une idée précise de ce que nous disons. Donc, il faut être dans l'ordre. Tout doit être fait dans l'ordre. Hors de l'ordre, il n'y a que désordre, évidemment, et ce n'est pas rien de le dire, évidemment. Il nous faut lire, méditer et étudier l'Écriture telle que l'Église nous en donne le sens. Et là, j'ouvre une autre parenthèse pour dire que, en fait, tout ce qui relève de l'exégèse moderne est diabolique et stérile. Et je ne parle pas simplement de l'exégèse moderniste, mais je parle aussi de l'exégèse antimoderniste. Car l'exégèse antimoderniste n'a jamais essayé d'utiliser les outils empruntés aux savants allemands au XIXe siècle pour les faire servir à l'orthodoxie. Et le résultat est que l'effort est un effort monstrueusement grand pour un résultat qui est infime, voire totalement dérisoire. Totalement dérisoire. Et quand je dis dérisoire, c'est peut-être encore par optimisme. Tout ce qui s'est fait comme étude biblique au XXe siècle ne vaut rien. Rien de ce qui s'est fait au XXe siècle ne vaut quoi que ce soit. Parce que je ne dis pas que tout est hérétique, ce n'est pas ça ce que je dis. Je dis que rien ne vaut pour nourrir notre foi. Rien ne vaut pour nourrir notre foi. D'ailleurs, il se trouve que, mes très chers frères, lorsque nous nous intéressons, ou lorsque nous intéressons notre prochain à des notions d'exégèse, mes très chers frères, pour diffuser une meilleure connaissance de l'Écriture, etc., étant donné que, d'une part, nous donnons des perles aux pourceaux, et d'autre part, nous faisons toutes ces choses, même dans le meilleur esprit, dans le désordre, il se trouve que nous vidons l'Écriture sainte de toute capacité de nous faire connaître ce Dieu que nous devons aimer afin de pouvoir bénéficier des larmes de compassion qu'il verse sur nous. Vous voyez, mes très chers frères, comment l'enfer est pavé de bonnes intentions et comment bien des gens perdent leur temps et damnent les âmes de leurs prochains, sans parler de la leur propre, lorsqu'ils s'imaginent faire du bien aux autres et que ce bien est fait dans le désordre, si tant est que ce soit un bien. La seule nourriture, mes très chers frères, la seule nourriture de l'âme, c'est le contenu de l'Écriture sainte. dans la soumission à l'Église. Nous devons être instruits par les prêtres, les laïcs, les fidèles doivent être, et même les prêtres eux-mêmes, doivent être instruits par le clergé. Et cette instruction, ils l'apprennent non pas en leur débitant du Saint Thomas au prône ou à l'homélie du dimanche, ils les prennent, cette connaissance, ils l'apprennent de l'Écriture sainte. C'est pour ça que si vous regardez tous les textes de toutes les messes qui sont dans le missel, vous trouvez que tous ces textes sont essentiellement bâtis constitués par des passages de l'Écriture sainte, à l'exception peut-être des oraisons, mais d'ailleurs qui découlent de l'Écriture sainte, en tout cas de l'Esprit Saint qui a inspiré l'Écriture sainte, puisque elles ont quasiment valeur d'Écriture sainte, puisqu'elles viennent de la plus antique liturgie. Mais il se trouve, vous voyez, mes très chers frères, si vous y regardez bien, l'Église ne nous nourrit jamais que par l'Écriture sainte. Bien sûr, elle demande aux prêtres d'étudier les théologiens, et il le faut. S'ils ne le faisaient pas, ils pécheraient contre leur devoir d'État. Elle demande à chacun de lire le catéchisme, de l'étudier, etc. Bien entendu. Mais pour nourrir notre âme, il nous faut l'Écriture sainte, et c'est l'Église même qui nourrit notre âme de l'Écriture sainte. Elle ne nous propose pas des passages, même les meilleurs passages de Saint Bonaventure, de Saint Thomas, de Saint Bernard, à la messe. Elle nous cite toujours l'Écriture sainte, parce que c'est l'Écriture sainte qui nourrit notre âme, dans la mesure où l'Église nous l'enseigne. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Ad corruptionem nostram, dit Saint Paul. Tout ce qui a été écrit pour notre instruction. Le chrétien qui ne s'instruit pas dans l'Écriture sainte n'est pas digne de compassion. C'est un insensé. Comment peut-il d'ailleurs être chrétien? Il est chrétien parce qu'il est baptisé, mais le baptisé n'est jamais qu'un bébé nouveau-né. Quand un bébé est mis au monde, immédiatement il a besoin de manger. Lorsque le chrétien est baptisé, immédiatement il a besoin de se nourrir. Et où se nourrira-t-il? Donne-t-on Saint Thomas aux nouveaux baptisés ou même aux anciens? Non, on leur donne la parole de Dieu. Parce que Saint Thomas, je le disais tout à l'heure, qu'il y avait un bémol par rapport au traité de Saint Thomas. Évidemment, puisque la somme théologique elle-même est fondée sur l'Écriture sainte, en tout cas celle de Saint Thomas. Donc elle est fondée largement sur l'Écriture sainte, et il se trouve que Saint Thomas utilise tellement bien et si à propos l'Écriture sainte que, sous un certain rapport, on apprendrait à aimer Dieu même en lisant la somme théologique. Mais il se trouve que ce n'est pas comme cela que l'on doit procéder. Il se trouve que nous ne pouvons apprendre à aimer Dieu et à le craindre que dans la mesure où nous nous nourrissons de l'Écriture sainte. Si nous ne le faisons pas, nous sommes des insensés. Et si nous méprisons l'Écriture sainte pour lire, que sais-je, les textes du magistère, comme on dit, pour lire des encycliques à longueur de journée, pour lire, que sais-je, même les choses les plus autorisées, nous ne faisons pas ce que nous devons. Nous ne faisons pas ce que nous devons. C'est exactement comme si un petit bébé qui a besoin du lait et ensuite d'une nourriture un peu plus solide, nous lui apprenions, je ne sais pas, moi, à faire toutes sortes de choses. Il aura besoin peut-être d'apprendre un jour à faire toutes sortes de choses, mais pour l'instant, il a besoin de manger. Donc voyez, mes très chers frères, si l'on méprise l'Écriture et que l'on fait mine même d'apprécier les pères ou les catéchismes ou les théologiens, on est un insensé, parce qu'on ne se nourrit pas avec la nourriture qui seule peut nous donner cette connaissance qui a un lien, vous vous rappelez, parce que nous ne sommes pas sortis de notre sujet, qui a un lien avec ce jour qui est le nôtre et qui est le jour auquel Dieu a compassion de nous, au point d'en verser des larmes. Le chrétien qui ne s'instruit pas dans l'Écriture est un insensé. Comment serions-nous instruits de Dieu autrement, mes très chers frères? Il se trouve que la méditation de la parole de Dieu est une merveilleuse antidote contre toutes sortes de choses. Et très rapidement, nous allons voir dans ce texte de l'Épître ce que la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu, la fréquentation et la familiarité avec la parole de Dieu, c'est-à-dire le fait d'être familier avec elle, peut nous apporter. La méditation de la parole de Dieu combat les mauvais désirs. C'est pour cela qu'il est dit, ne nous abandonnons pas aux mauvais désirs comme l'ont fait nos pères dans le désert. Vous allez dire, oui, mais c'est juste un exemple. Non, c'est un exemple, ce n'est pas juste un exemple. Nos pères dans le désert, dans l'Ancienne Alliance, leurs mauvais désirs ont été inscrits dans ces livres par Moïse. Nous lisons ces livres et donc, voyant ce mauvais exemple, nous sommes incités à craindre d'une part, de faire la même chose, et d'autre part, à craindre le Dieu qui les a châtiés. Continuons. Nous pourrions dire pour chacun des exemples beaucoup de choses, mais nous ne faisons que survoler. La méditation de la parole de Dieu, mes très chers frères, nous porte, eh bien, à éviter l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il est écrit, ne devenez pas non plus idolâtres comme certains d'entre eux. L'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? L'idolâtrie, c'est l'amour des créatures, l'amour désordonné des créatures. Ce n'est que par la méditation de l'Écriture sainte que nous pouvons acquérir cette vertu, si l'on peut dire, qui consiste à user droitement des créatures. Où et comment, où trouverions-nous un motif légitime pour ne pas user de façon désordonnée des créatures, sinon dans l'Écriture sainte? Celui qui lit les stoïciens, celui qui lit Aristote, et qui, en faisant un effort sur lui-même, arrive à user droitement des créatures, ne peut que se féliciter de lui-même. Et vous savez très bien, vous connaissez peut-être, ou peut-être que vous ne connaissez pas, mais ces textes qui, aux yeux d'un chrétien, apparaissent absolument monstrueux de certains philosophes païens qui étaient très sincères et qui exprimaient, ils disaient, d'ailleurs, ils s'exprimaient comme des pélagiens, curieusement. Ils disaient, je veux bien remercier les dieux pour les biens qu'ils m'ont donnés, mais je ne remercie pas, je n'ai pas à, le sage n'a pas à remercier les dieux pour les vertus, car les vertus, ce sont les hommes eux-mêmes, c'est le sage lui-même qui se les est donné par ses propres efforts. Et ses propres efforts sont à lui et ne sont pas aux dieux. Voilà en quoi consistait la piété. Et il ne faut pas croire que c'était des impies qui disaient ça. C'était des hommes pieux, c'était des sages païens qui raisonnaient en dehors du christianisme. Vous voyez, mes très chers frères, si nous suivons leurs traces, nous allons pouvoir être vertueux sous un certain rapport, mais nous n'allons pas pouvoir plaire à Dieu. Parce qu'on ne plaît à Dieu que dans la mesure où l'on est vertueux, mais qu'on est vertueux pour les bonnes raisons. C'est-à-dire par la crainte de Dieu et l'amour de Dieu. Si nous pouvons nous aider par de tel ou tel texte d'Aristote pour être vertueux et user droitement des créatures, eh bien, tant mieux pour nous, mais ce n'est jamais qu'à titre, disons, de complément. Si nous devons ne pas user de façon désordonnée des créatures, c'est parce que Saint Paul nous dit, ne devenez pas non plus idolâtres comme certains d'entre eux dont il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire et il se leva pour danser. Vous voyez, mes très chers frères, bienheureux celui qui ne méprise pas l'Écriture sainte, mais qui au contraire se laisse transformer par elle, parce qu'elle a une vertu intrinsèque, puisqu'elle est, elle n'est autre que le Verbe même de Dieu, le Verbe de Dieu, la tradition écrite, ayant besoin de la tradition orale, bien entendu, ce n'est pas ça la question, mais c'est le Verbe même de Dieu, et Aristote, pour génial qu'il soit, n'est pas le Verbe de Dieu. Vous voyez, mes très chers frères, continuons. La méditation de la parole de Dieu, eh bien, mes très chers frères, nous fait aussi éviter l'adultère spirituel, puisqu'il est écrit, conformément à ce qu'il est écrit, ne commettons pas non plus d'impureté comme plusieurs firent parmi eux, et il en périt 23 000 en un seul jour. Lorsque le stoïcien méprise l'homme qui se laisse aller à la débauche et qu'il le regarde de haut et qu'il s'abstient de tout, il le méprise et il se rengorge par rapport à lui. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'est pas comme le reste des hommes, parce qu'il a compris qu'il ne fallait pas se laisser aller à se ravaler au rang des bêtes. Mais celui-là sera condamné par Dieu parce qu'il méprise son prochain et parce qu'il est orgueilleux. Tandis que si nous nous abstenons de l'impureté, parce que il périt 23 000 Hébreux en un seul jour suite aux impuretés qu'ils ont commises avec les filles de Madian, eh bien, il se trouve, mes très chers frères, que nous allons nous tenir dans la pureté pour les bonnes raisons. Alors vous allez dire, mais le résultat sera le même. Le résultat sera peut-être le même, encore qu'en réalité il ne sera pas le même, mais le résultat sera peut-être le même. Mais les motivations ne seront pas les mêmes. Or, nous le savons, comme nous l'avons vu la dernière fois, si vous vous souvenez, il y a quelque temps, c'est l'intention qui compte. Si nous nous abstenons de l'impureté pour les mauvaises raisons, eh bien, cela nous est compté comme un péché. Ou cela ne nous est en tout cas pas compté comme un mérite. En tout cas, pas comme un mérite. Continuons. Si nous ne tentons pas le Christ, mes très chers frères, nous faisons attention à ne pas tenter le Christ, c'est-à-dire à ne pas douter, être dans la défiance par rapport à la puissance de notre Dieu, c'est parce qu'il est dit, ne tentons pas le Christ comme quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Vous voyez, mes très chers frères, lorsque nous voyons le crucifix, nous savons que Moïse avait un crucifix, avait érigé un crucifix dans le désert. C'était le serpent qu'il avait mis en croix, le serpent de bronze auquel le Christ s'identifie devant Saint Nicodème. D'ailleurs, Saint Nicodème que nous retrouvons au pied de la croix, au pied de la croix, enfin au tombeau en tout cas, après la mort du Christ. Donc il se trouve que nous voyons, lorsque nous regardons le crucifix, nous voyons, mes très chers frères, l'antidote, le serpent miraculeux, le serpent divin, antidote de la morsure des serpents brûlants dans le désert qui ont mordu et qui mordaient ceux qui tentaient le Christ. Vous voyez? Où est-ce qu'Aristote va nous aider là-dedans. Jusque-là, c'est un petit peu comme la confrontation de Moïse avec les magiciens de Pharaon. Jusque-là, Aristote aurait pu aussi nous aider à ne pas être idolâtre, ne pas avoir de mauvaises pensées, ne pas commettre d'impureté, mais ne pas tenter le Christ. Là, c'est le doigt de Dieu, comme diraient les magiciens. C'est le doigt de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu pour ne pas tenter le Christ, pour ne pas être dans la défiance. Et si nous devons apprendre à ne pas être dans la défiance et à ne pas tenter le Christ, nous ne pouvons l'apprendre que par la méditation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ceci a été écrit pour notre instruction. Nous devons le savoir parce que notre Seigneur nous dit, si tu savais, si tu connaissais les choses qui peuvent te procurer la paix. Les larmes du Christ, les larmes de compassion, mes très chers frères, nous poussent à connaître ce Dieu. Nous ne pouvons connaître ce Dieu qu'en le craignant, et connaître et aimer ce Dieu, et nous pouvons aimer ce Dieu qu'en le craignant d'abord, et tout ceci ne peut se faire que par la parole de Dieu, mes très chers frères. La parole de Dieu enseignée par l'Église, enseignée par les prêtres, qui eux-mêmes se nourrissent de la parole de Dieu, car c'est là leur devoir. Mais voyez, mes très chers frères, je ne dis rien contre les meilleurs philosophes païens, loin de là, vous le savez très bien, car nous les citons volontiers. Mais il se trouve que, voyez, à partir d'un certain point, on ne peut plus, il faut la grâce. Et je dirais même que si à partir d'un certain point il faut la grâce, c'est qu'il fallait la grâce dès le début. C'est par la puissance de Dieu que Moïse a commencé à faire ses miracles, et même si c'était par la puissance du démon que les magiciens les faisaient et faisaient de semblables miracles, au bout d'un temps, eh bien on s'aperçoit que c'est la puissance de Dieu qui est nécessaire pour tout, pour tous les vrais miracles. Continuons encore un tout petit peu. Et si nous apprenons à ne pas, et nous abstenons de murmurer, mes très chers frères, contre la providence, eh bien c'est que Saint Paul nous dit ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui furent frappés de mort par l'ange exterminateur. Oui, mes très chers frères, la connaissance de Dieu ne peut s'obtenir que par la méditation quotidienne de l'Écriture sainte, par laquelle nous devenons familiers de la geste divine, nous devenons familiers des œuvres divines, nous devenons familiers des œuvres authentiques de Dieu. Alors vous allez dire, mais moi je ne lis pas l'Écriture sainte, je lis la géographie, je lis la vie des saints. C'est très bien, c'est très bien. Mais vous savez, mes très chers frères, c'est très bien. Mais si vous dites que vous lisez ça parce que vous ne lisez pas l'Écriture sainte et que c'est la même chose, je vous dirais, ce n'est pas la même chose. Beaucoup de saints, beaucoup de miracles qui ont eu lieu dans leur vie sont tout à fait authentiques. Il y a des documents, il y a l'Église, on a conservé les pièces essentielles, etc. Et puis il y en a d'autres, vous savez, on ne peut pas trop savoir. Et puis après, de la vie des saints plus ou moins fantaisistes, on passe aux révélations privées. Et aux révélations privées, c'est comme un gouffre sans fond. Une fois qu'on est tombé dedans, on tombe, on tombe, on tombe, et ce n'est jamais fini. Vous voyez, mes très chers frères, la parole de Dieu ne trompe jamais. La parole de Dieu est infaillible. La parole de Dieu est vraie dans le moindre trait de l'être de la parole de Dieu est salvifique. Le moindre trait de l'être ne passera pas, mes très chers frères, puisque c'est le Christ lui-même qui l'a dit. Donc, voyez, mes très chers frères, c'est très bien de se nourrir de toutes sortes de choses autorisées dans l'Église. Il faut se nourrir de la parole de Dieu si nous voulons avoir la vie éternelle, si nous voulons connaître les choses qui appartiennent à notre paix et bénéficier de la visitation de notre Seigneur au jour où il verse des larmes sur nous particulièrement. Vous voyez, mes très chers frères. Toutes ces choses ont été dites en figure, mes très chers frères. Oui, elles ont été dites en figure et les commentateurs nous disent que si la figure du châtiment corporel, que la figure du châtiment corporel dans l'Ancien Testament était l'annonce et l'annonce du châtiment éternel dans le Nouveau. Alors vous voyez, mes très chers frères, nous avons d'autant plus besoin de méditer la parole de Dieu que nous sommes dans cette dernière économie, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans les temps de la fin, à la fin des temps, et il se trouve que nous sommes sous l'ère de la grâce. Alors évidemment, on fera l'objection que la lecture de l'Écriture sainte est peu recommandable parce qu'il y a beaucoup d'obscurité, il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de choses immorales dans l'Écriture sainte qui ne peuvent pas nous apprendre la morale. Regardez, par exemple, toutes sortes de gens qui mentent, qui tuent, etc. Alors, je vais vous dire, alors qu'est-ce que vous proposez de meilleur pour apprendre la morale, mis à part évidemment les livres d'Aristote. Qu'est-ce que vous proposez de meilleur? Vous voyez, même Aristote disait que le, et ce n'est pas exactement cela, avec cet argument-là que nous allons justifier l'écriture sainte, bien entendu, mais même Aristote vous dira qu'il y a un aspect catharsitique, pour faire un peu le pédant, dans les histoires, lorsque les poètes nous racontent des histoires immorales. C'est-à-dire, il dit, quand en voyant la malice des gens, en voyant la méchanceté, en voyant le traître qui, dans toutes ses œuvres, cela provoque un dégoût et cela provoque le désir de faire le contraire. Alors, encore une fois, je ne dis pas ça pour sauver l'écriture sainte, parce que l'écriture sainte n'a certainement pas besoin d'être sauvée par Aristote, mais je dis, voyez, ne soyez pas sots, ne soyez pas insensés, surtout ne soyez pas paresseux, parce qu'il y a beaucoup de paresse lorsque l'on ne veut pas lire l'écriture sainte, et alors, je vais dire aussi, mais je ne développerai pas beaucoup, ne soyez pas martionnistes, parce que vous seriez vraiment des imbéciles et des démoniaques. Mes très chers frères, on ne peut pas trouver de meilleure source, de meilleure méditation, de meilleure nourriture pour notre âme que la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Cette méditation doit, je le répète, doit s'effectuer dans le cadre d'une vie ordonnée, bien entendu, sous la direction d'un clergé, lui-même formé traditionnellement, etc., bien entendu. Mais l'écriture sainte est véritablement la nourriture de notre âme, de telle sorte que nous acquérions non seulement une nourriture pour notre âme, mais aussi la forma mentis et la vision du monde traditionnel qui sous-tend l'écriture sainte, et ce n'est pas rien, mais nous ne commenterons pas aujourd'hui, mais nous disons que c'est loin d'être rien, au contraire aujourd'hui c'est plus nécessaire que jamais. Et aussi que nous, mes très chers frères, que nous ayons des références, que nous sachions à quoi les prédicateurs font référence lorsqu'ils parlent du veau d'or, lorsqu'ils parlent de toutes sortes de choses, de toutes sortes d'épisodes dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau d'ailleurs aussi. Si nous ne connaissons pas notre propre livre saint, comment voulez-vous être vraiment les croyants de cette religion? Quelle honte que les musulmans connaissent le Coran par cœur. Quelle honte que les juifs connaissent l'Ancien Testament par cœur. Quelle honte que les protestants connaissent l'Ancien et le Nouveau Testament par cœur. Quelle honte que nous, les catholiques, nous soyons les seuls auxquels on dit, contrairement à l'enseignement unanime des pères, on est seuls où le clergé déconseille, parce qu'il est feignant et parce qu'il est ignorant, déconseille aux fidèles de lire l'Écriture sainte. Évidemment, pas la lire n'importe comment, pas de regarder des vidéos d'exégèse pour savoir mieux toutes sortes de choses, tout ça c'est la mort de l'âme, c'est la mort de l'âme. Mais enseigner, vous voyez, pour enseigner les fidèles. Nous sommes la seule religion, à peu près, si je ne m'abuse, où le clergé est hostile à son propre livre saint, et tout ceci pour se gargariser, mais se gargariser de quoi ? De Drummond, de Maurras, éventuellement d'Aristote, de Maritain, enfin, de toutes sortes de choses, de valeurs douteuses, disons, pour être gentil, alors que l'Écriture sainte est ce qui est la trame même de la religion. Ouvrez n'importe quelle page de n'importe quel tome des œuvres de Saint Bernard, vous allez trouver un tissu de versets bibliques, à tel point que pour trouver les paroles mêmes de Saint Bernard, il faut voir où s'arrêtent les guillemets, tellement il cite l'Écriture sainte. Ouvrez n'importe quelle page de n'importe quel écrit de Saint Jean de la Croix, par exemple, pour ne citer que lui, qui connaissait l'Écriture sainte par cœur, vous trouverez un tissu non seulement de citations, mais de références implicites à l'Écriture sainte. Vous êtes étranger, vous êtes aliéné à votre propre religion, si vous ignorez l'Écriture sainte, vous êtes un sujet d'opprobre et de honte à la religion, si vous ne connaissez pas l'Écriture sainte, selon votre état, certes, mais si vous ne connaissez pas l'Écriture sainte, vous êtes un sujet d'opprobre, de honte, même pour nos pères, je dirais même pour les meilleurs chrétiens du XVIIIe siècle encore, ils étaient pétris de l'Écriture sainte. Après, évidemment, après vient la débâcle. Mais encore, voyez mes très chers frères, donc, c'est la nourriture de notre âme. Et pourquoi disons-nous cela ? C'est parce que nous devons connaître les choses qui peuvent nous procurer la paix. Et si le Fils éternel de Dieu pleure sur nous et que nous devons saisir cet instant où il nous est favorable, nous devons pouvoir l'aimer et le craindre lui et pas un autre. Si nous aimons le Christ roi de, je ne sais pas, de le Christ roi ou le Christ ou le Christ du grand monarque et du saint pape de Holozer ou de toutes sortes de choses, si nous aimons le Christ de Maria Valtorta, si nous ne jurons que par d'ailleurs personne ne jure par le Christ de Marie d'Agreda parce qu'il est tellement ridicule et tellement méprisable que personne. Mais non, disons que si nous aimons le Christ roi des Christeros, etc., nous. C'est de l'idéalisme, ça n'existe pas, ce sont des choses qui n'existent pas, ce sont des concepts faux pour les meilleurs d'entre eux, ce sont des concepts faux, creux, qui n'existent pas. Si vous aimez le Christ de l'Écriture sainte, si vous aimez le Christ annoncé dans l'Ancien Testament, préfiguré par une multitude de préfigurations dans l'Ancien Testament, et si vous aimez le Christ qui, dans le Nouveau Testament, pleure sur vous, alors, mes très chers frères, vous bénéficierez de la compassion de ce Christ pleurant en ce jour qui est le nôtre. Si vous méprisez le Christ pleurant et qui est une sorte de crypto-libéral et que vous lui préférez le Christ fouettant, etc., mes très chers frères, vous êtes des démons. Vous êtes des démons et la seule chose que je peux dire pour atténuer votre aspect démoniaque, c'est que vous avez été trompé. Vous avez été trompé par les persiflages et les ricaneries de Don Sarda et Salvani. Vous avez été trompé par les persiflages des prêtres martionnistes. Vous avez été trompé par la pseudo-amour de l'Écriture sainte des militants qui vous ont appris à aborder l'Écriture sainte d'une façon totalement désordonnée. Vous êtes une victime, je le veux bien, mes très chers frères, mais cela ne vous n'empêche, vous êtes des insensés. Si nous ne connaissons pas très bien, et Dieu sait si les laïcs, encore il n'y a pas si longtemps, il y a encore quelques siècles, connaissaient très très bien l'Écriture sainte, parce qu'ils la méditaient constamment sous la houlette des bons prêtres, eh bien, mes très chers frères, si vous connaissez bien cette Écriture sainte, un grand nombre de problèmes vont se régler, je ne dis pas automatiquement, mais très facilement dans votre vie. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce qui a été écrit pour votre instruction, vous le saurez, mes très chers frères. Et connaissant ce qui a été écrit pour votre instruction, comment se peut-il que vous n'ayez pas la grâce de pouvoir le mettre en pratique ? Mais si vous ne connaissez pas ce qui a été écrit pour votre instruction, et si, pire, vous le méprisez, eh bien, le Christ, sous un certain rapport, a beau pleurer sur vous, vous êtes indifférent, vous lui êtes indifférent. Alors, mes très chers frères, il faut terminer. Je pense que vous avez compris, j'espère, avec la grâce de Dieu. Saint Paul nous dit, c'est notre troisième point, « Ainsi donc, que celui qui croit être ferme prenne garde de tomber ». Vous voyez, mes très chers frères, une certaine fermeté dans la foi qui a lieu qu'on trouve chez les nucistes, chez les tradis, chez les traditionalistes, chez toutes sortes de gens qui se veulent vrais catholiques et qui méprisent les autres, comme dit le dernier modus proprio de François. Ça, c'est très drôle. Et finalement, ils méprisent les autres. Ils méprisent les sacrements des autres. C'est bien, c'est très bien trouvé en réalité. Eh bien, une certaine fermeté dans la foi, mes très chers frères, est en réalité tout simplement que de l'arrogance et un orgueil à peine croyable de la part de chrétiens. Quand je dis chrétiens, c'est entre guillemets. Mes très chers frères, que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe. Et savez-vous ce que disait déjà Saint Chrysostome à son époque ? Il disait en pleurant, Saint Chrysostome disait « Qui ?» est aujourd'hui, qui est maintenant celui qui se tient debout. À qui pouvons-nous dire aujourd'hui, disait-il, que celui qui est debout prenne garde de tomber, puisque l'on ne voit presque dans l'Église que des personnes renversées par terre. Saint Chrysostome déjà se plaignait à son époque de ne pouvoir dire à presque plus personne que celui qui est debout prenne garde qu'il ne tombe, parce que tout le monde était tombé. Tout le monde était tombé par terre, dans le vice, dans l'ambition, dans l'impureté, dans la tiédeur, etc. Et aujourd'hui, alors que dire d'aujourd'hui qui est vraiment la lie de la lie des siècles ? Les fondements sont renversés, mes très chers frères. L'arrogance atteint un sommet incroyable. L'orgueil, nous dit l'Écriture, et il faut le savoir, l'orgueil précède la chute. On voit des gens qui se prétendent de notre religion et qui ne le sont pas, qui prétendent désenclaver ce qu'ils appellent le cédévacantisme, désenclaver le nucisme, ça je veux bien puisque c'est leur religion à eux, désenclaver, et on voit quelque chose qu'on n'a jamais vu jusque-là. On en avait vu jusque-là, on en avait vu des choses aberrantes des militants injuriaient des évêques comme on injurierait pas son chien. On en avait vu des choses, mais on voit des choses encore plus énormes aujourd'hui. On voit des gens qui se prétendent les représentants et les défenseurs de la vraie religion, finalement s'acoquiner avec des commis qui sont à l'origine de l'effondrement moral de la France, du public français, de l'effondrement moral des gens qui sont à l'origine, si j'ose dire, et ceux qui connaissent la cybernétique sauront que dire, ils sont à deux clics de personnes qui, pendant des dizaines d'années, ont fait baisser par leurs blagues salaces le niveau de moralité globale de la nation. Et ces gens-là, sous prétexte que ce sont de vieux ronchons, ces gens-là les invitent, s'invitent entre eux, et ce qui fait on vous parle de Nonnuna Cum, et deux clics plus loin, vous pouvez avoir la blague la plus dégueulasse, si vous me permettez l'expression, que vous puissiez entendre, par des gens qui finalement désenclavent la religion. Et s'il n'y avait que ça, et ça c'est presque drôle vis-à-vis, comparé à d'autres choses plus sérieuses que je n'évoquerai pas ici. Les fondements sont renversés, mes très chers frères. L'orgueil, un orgueil démentiel, se déploie aujourd'hui comme il ne s'est jamais déployé. Nous sommes très proches d'une chute retentissante, mes très chers frères. On s'imagine que le dernier motu proprio de François va faire arriver des gens en multitude du côté des Nucistes. C'est le contraire qui va se passer. C'est le contraire. Pourquoi? Eh bien parce que ces gens-là ne sont pas du tout les représentants de la religion. Ces gens-là sont dans le désordre et ces gens-là sont un scandale, un objet de scandale pour les pauvres néo-catholiques qui sont dans la perplexité et qui sont dans la confusion mentale et qui ne savent plus où aller et qui ne veulent surtout pas aller là où non seulement on trouve l'arrogance et l'orgueil, mais on trouve maintenant la salasserie. La salasserie, mes très chers frères. On mange comme des porcs, on se vante, on est dans l'obscénité, on montre des personnages du genre féminin non seulement dans des vêtements, mais aussi avec des peintures lurées de tatouages, etc. C'est la fin du monde, mes très chers frères. Eh bien, tout ceci doit nous faire. Doit nous renvoyer, mes très chers frères, à l'Écriture sainte. Nous devons, nous qui sommes fermes par la grâce de Dieu, prendre garde de ne pas tomber. Parce que s'ils sont tombés, nous pourrions tomber aussi, mes très chers frères. Mes très chers frères, pleurons sur Jérusalem, pleurons sur ceux qui ne pleurent pas sur eux-mêmes, pleurons sur nous-mêmes surtout, et veillons sur nos pas, mes très chers frères, à la lumière de l'Écriture sainte, aimer, révérer, méditer pour le Dieu qu'elle nous fait craindre et aimer, ce Dieu qui nous aime tant qu'aujourd'hui, il verse des larmes de compassion sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.